France Culture.
J'ai découvert Conversation à la cathédrale de Mario Vargas Llosa dans la bibliothèque de ma mère. Très vite, ce roman est devenu l'un de mes préférés et il ne cesse de me revenir en tête.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Mario Vargas Llosa, écrivain majeur de la littérature sud-américaine mondiale, prix Nobel en 2010, mort en avril 2025, est au programme de votre book club aujourd'hui. Nous évoquons son œuvre en nous appuyant sur cet épais roman « Conversation à la cathédrale » qui termine en 1969 à Porto Rico, dont il dira plus tard que jamais aucun livre ne lui a demandé autant de travail et que s'il devait en sauver un du feu, ce serait celui-là. Un roman sur la corruption pendant la dictature du général Odira, entre autres, entre 48 et 56. C'était l'adolescence de l'auteur. Nous évoquons ce texte et Vargas Llosa en général avec deux spécialistes de son œuvre. Ensuite, nous retrouverons Mohamed Bougarsar en résidence au Book Club pour cette semaine. Il a pour mission de sortir un livre de sa bibliothèque en écho avec une actualité de son choix. Aujourd'hui, il relit les confessions de Saint-Augustin juste après la nomination du nouveau pape. Et enfin, on jouera au grand jeu des pages musicales à chercher trouver de la musique dans les livres. Et il y en a chez Vargas Llosa. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Stéphane Michaud.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de littérature comparée à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous avez dirigé l'édition des œuvres romanesques dans la Pléiade. C'était en 2016, peut-être on peut dire d'emblée. Est-ce que je ne me trompe pas que Vargas Llosa, c'est le premier auteur étranger à entrer dans la Pléiade de son vivant ?
Ah oui, oui. C'était au fond une grande fierté de sa part. D'autant que la littérature française était pour lui, une passion de jeunesse et qu'il l'a tiré de la médiocrité de sa condition. Il avait les reproches incessants de son papa qui trouvait qu'il ferait mieux de s'occuper d'autre chose et par bonheur, Eugène Sue, Victor Hugo ont été ses grandes passions. On verra qu'il y en a beaucoup d'autres.
Oui, parce qu'on commencera par l'évoquer comme chaque jour dans le Book Club en tant que lecteur. Pardon. Merci beaucoup à vous d'être là en tout cas pour participer à ce Book Club en son honneur. Bonjour Inès Salazar.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature hispano-américaine à la Sorbonne Université. Vous avez participé à cette même Pléiade en rédigeant des notices, en révisant aussi la traduction, ça nous permettra de parler de sa langue, dans laquelle nous ne le lisons, en tout cas moi, je ne l'ai pas lu. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer cet homme, et cette œuvre et ce roman en particulier. Alors, je l'ai dit, on va se concentrer aujourd'hui sur ce roman de 1969, Conversation à la cathédrale, mais je signale la parution prochaine d'un roman inédit, posthume donc, pour ce qui est de sa traduction vers le français, ce roman de Mario Vargas Llosa, qui s'appelle Je vous dédie mon silence, et qui paraîtra aux éditions Gallimard. Et la traduction étant assurée par Albert Bensoussan et Daniel Lefort. On va faire comme d'habitude, on va évoquer la vie de cet auteur d'abord en tant que lecteur et on va commencer par cette archive. Il est au micro de Laure Adler en mai 2017 dans l'émission L'Heure Bleue.
Je crois que la littérature est la vie, n'est-ce pas ? Et c'est la littérature que vous fait comprendre c'est que vous vivez sans prendre des distances, sans les savoir. Et la littérature vous enrichit énormément la compréhension de la vie dans toutes ses nuances, dans toutes ses variations. Et je crois que c'est un des effets merveilleux qui ont les grands livres, les grandes œuvres littéraires. Vous sortez de ces œuvres et vous savez l'impression de connaître beaucoup mieux le monde dans lequel vous vivez. Hein? C'est ce qui m'est arrivé toujours que je lis un grand livre, un chef-d'œuvre.
Hein? Il est né en 1936, Mario Vargas Llosa. Il disait aussi dans la maison de mes grands-parents, dans la maison où il a grandi, les livres qui remplissaient les étagères étaient généralement traduits du français, Alexandre Dumas, Jules Verne, Victor Hugo, et consorts. Tout cela ont façonné ma vocation de littéraire. On l'entend dans cette archive au micro de Laure Adler, il dit combien la littérature, c'est la vie. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, et en même temps, c'est aussi profond que cela. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui, Mario Vargas Llosa, en tant que lecteur, Stéphane Michaud?
Écoutez, sûrement une grande passion, et pour quelqu'un qui, après tout, a la chance de le connaître et de suivre ses propositions de lecture, c'est tout à coup un panorama qui prend vie, qui prend des couleurs et vous parle immédiatement. C'est vrai que c'est assez extraordinaire. J'étais au départ, comme enseignant de littérature française puis littérature comparée, amené à lire, par exemple, prenons un cas aussi évident que le cas de Gustave Flaubert, Madame Bovary.
Grande passion de Vargas Llosa.
Précisément. Et il arrive à Paris en 1959. La première chose qu'il fait, le train ou l'avion, je ne sais plus, il vient de Madrid, l'a posé à temps à Paris pour qu'une librairie soit encore ouverte, et il achète Madame Bovary. Et la lecture qu'il a de Madame Bovary a fini par s'imposer aux francisans qui pensaient avoir plus d'un demi-siècle et presque un siècle déjà d'apprentissage de la lecture de Flaubert. Et la manière dont il a d'aborder le texte, cette manière qu'il a, lui redonne des couleurs, et on est en plein dans ce devenir de Madame Bovary, qui se trouve, au fond, jeune femme dans la Normandie, très enfermée dans un monde clos et dans laquelle il n'y a pas d'avenir. Et tout à coup, voilà qu'elle prend vie, malheureusement, pour se retrouver, en fin de compte, enfermée dans un monde plus mesquin qu'elle ne l'aurait espéré. Mais il y a, de la part de Vargas Llosa, une attente de la littérature qui est contagieuse. C'est-à-dire que c'est proprement extraordinaire de le suivre et de voir que ce regard qu'il a porté très jeune sur Flaubert, qui était pour lui une libération absolue.
Mais comment est-ce qu'il se trouve nez à nez avec Flaubert aussi jeune au Pérou, Vargas Llosa ?
Alors,
en fait, lui, il le découvre plutôt en France. Et quand il était au Pérou, il lisait beaucoup la littérature française, mais Dumas, Hugo, notamment quand il était très très jeune, à l'école militaire Leoncio Prado, qui est l'école militaire qui est au cœur du premier roman, La ville et les chiens. Et lui-même, il dit que pour justement supporter ce monde de violence, où le Pérou est tout à fait présent dans toutes ces inégalités, ces différentes ethnies, c'était un moyen de s'évader de cette réalité violente, machiste, de cette école militaire, et c'était la littérature qui lui permettait cette évasion, mais une évasion qui, à la longue, va être digérée en tant que le moyen de connaître bien mieux l'humanité, ce que nous sommes, et cette la littérature aide à mieux vivre, en fait, hein, et ça, c'est vraiment une chose que Vargas Llosa va dire constamment, notamment dans son discours du prix Nobel.
En 2010. Pourquoi ce penchant particulier pour la littérature française ? C'est étonnant ou pas spécialement étonnant pour une famille comme celle de Vargas Llosa ?
Le Pérou, enfin, disons que Lima et la classe moyenne, ou plutôt la petite bourgeoisie ou la bourgeoisie, a été toujours très proche, hein, de la culture française. Après, ça s'est un peu américanisé, mais disons que quand même, la culture française était au départ.
Donc aucun étonnement qu'ils lisent Hugo et Dumas et Jules Verne.
Et puis que ça aille parfois beaucoup plus proche, c'est-à-dire que en même temps, il a découvert dès l'époque de Lima des auteurs plus présents. Il avait pris un abonnement à une revue française pour rester aussi près que possible. Au fond, la littérature, pour nous, nous avons un mot abstrait, mais c'est autant de couleurs différentes, un kaléidoscope qui ne cesse d'appeler à la vie, et non pas une vie qui serait banalisée et canalisée dans une direction déterminée, mais justement qui permet des éclosions multiples. Et éventuellement, dans le cas du Pérou, la découverte qu'il a commencé à faire, la première découverte de Sartre, puis tout ce qui va suivre derrière, c'est un lien immédiat à la vie et au conflit de l'époque.
Et on peut dire qu'il cherche ça ? C'est-à-dire que, dans un premier temps, vous vous dites, Inés Salazar, échapper à une certaine vie, à une certaine éducation, aussi une certaine étroitesse à ce moment-là. Mais en même temps, on entend dans ce que vous dites, Stéphane Michaud, la capacité à lire le monde, à le comprendre, éventuellement à agir sur celui-ci. Quand il lit Sartre, on peut dire que ce serait ces deux grandes pistes de lecteur à lui, à Vargas Llosa ?
Ce qui est en même temps tout à fait extraordinaire, c'est qu'il a une très très vite et très prématurément une expérience de l'écriture qui fait qu'il fait la différence entre l'écriture de la presse. Et il a été très jeune journaliste, au fond, pour les congés d'été. Il s'est fait embaucher dans un journal local où il a écrit des faits divers. Mais c'est en même temps une manière d'entrer dans une écriture très particulière, celle des faits divers de la presse. Et à côté de ça, au fond, cette ouverture qu'on pourra appeler carrément idéologique, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui, par rapport à, au fond, la domination des États-Unis, qui est le grand voisin et qui est présent dans les structures économiques et qui est tyrannique, quelle est cette ouverture possible? Et je crois qu'il est important de signaler dès le départ, au fond, que Vargas Llosa a voulu aller non pas vers l'université catholique, qui était l'une des grandes universités locales, mais l'université San Marcos, et qui était, on le voit dans le roman, décrié par l'un des personnages du roman, un sénateur respectable, du moins c'est ce qu'il aimerait faire croire. Dans ce cas-là, San Marcos n'est pas l'université qu'il faut, il y a trop de cholos. C'est-à-dire que dans un Pérou clivé d'un point de vue racial, eh bien, les vrais Péruviens, ceux qui sont appelés à gouverner le pays, sont les descendants des Espagnols qui ont colonisé le pays. Et pour Vargas Llosa, c'est très important de sortir de cette vision qui est au fond une vision réductrice et qui ensuite autorise l'immobilisme. Mmh. Donc la littérature est au fond un bouillonnement, et c'est tout à fait extraordinaire que nous, lecteurs, lorsque nous prenons un livre de lui, et Dieu sait s'il a consacré beaucoup de temps à la littérature, faisant un livre précisément sur Flaubert, faisant un livre sur tous les auteurs qu'il a aimés, sur Garcia Marquez et sur, au fond, tous ceux dont il s'est senti très proche et par lesquels il s'est senti porté. Et si je permets juste d'ajouter un petit mot, la découverte tout à fait extraordinaire, c'est que c'est à Paris qu'il a découvert tout à coup son identité latino-américaine. Parce que l'identité latino-américaine, c'était tout à coup une promesse de vie et un destin à parcourir par rapport au blocage, parce que la vie péruvienne est au fond malgré tout limitée, il n'y a pas beaucoup d'avenir, tandis que là, parce que l'avenir a été aussi coupé radicalement aux racines, c'est-à-dire que les partis un peu progressistes, l'APRA, l'Alliance pour la Révolution américaine, le Parti communiste était voué aux gémonies et pouvait vous conduire en prison. Donc il y a, de la part de Vargas Llosa, cette expérience extraordinaire de la littérature comme une libération qu'il a connue tout petit. Et ensuite, cette libération peut se projeter dans le domaine, dans tous les domaines, juste dans le domaine amoureux. Voilà. C'est amusant de voir qu'un de ses premiers travaux, du moins c'est ce qu'il explique, c'est que dans son roman La ville et les chiens, le tout premier, qu'il écrivait, parce qu'il savait écrire, il écrivait les lettres amoureuses pour ses copains, qui au collège militaire étaient victimes de la loi militaire et n'attendaient qu'une chose, c'était la sortie pour aller retrouver leurs petits amis à l'extérieur. Donc l'écriture pour lui est quelque chose de vivant dont nous n'avons, nous peut-être, parce que nous l'avons idéalisé et nous avons des universités qui s'y consacrent et des émissions littéraires, pour lui c'est spontanément, c'est la vie même.
On a parlé de la maison de ses grands-parents où il dit lui-même qu'il y a des livres partout. Est-ce qu'il est vrai que son grand-père était amateur de poésie et que sa mère aussi lisait Pablo Neruda et avait les poèmes de Pablo Neruda sur la table de chevet ?
Je ne peux pas assurer cela, mais ça me semble tout à fait possible parce que Pablo Neruda était lu par tout le monde, enfin je veux dire tout ce qui pouvait lire au Pérou, bien entendu. Je pense que oui, il appartenait à une famille qui lisait.
Ce qui est peut-être terrible, c'est qu'éventuellement, son père, qu'il a connu très tard, puisque, au fond, ses parents n'étaient pas mariés, et que son père a pris la fuite très peu de temps avant même sa naissance, et Mario Vargas Llosa le redécouvre à 12-13 ans. Et qu'est-ce qu'il redécouvre à 12-13 ans? Un homme fait qui s'entend chef de famille et qui veut ramener le fils dans la droite ligne de la vie constructive. Et surtout, la littérature est une catastrophe. Et donc, il s'agit de le détourner de cette vocation qui n'en est pas une. Au fond, ce serait une droite ligne vers l'homosexualité qui, pour son père, est la catastrophe absolue.
Et alors, comment est-ce qu'il s'est défendu de cette condamnation à la fois d'une liberté d'écrire et d'une liberté sexuelle, Lina Salazar? Comment est-ce qu'il a épousé sa vocation profonde d'écrire, finalement?
On peut dire peut-être que bon, déjà c'est ce père castrateur en fait en quelque sorte lui a permis d'écrire comme une libération de cette voix qu'il voulait pour lui.
Parce qu'il écrivait contre du coup
en quelque sorte oui et contre ce destin qui était celui des couches de la bourgeoisie où on devait étudier le droit, où on devait être administré des entreprises. Lui, dans le roman, on voit très bien c'est les autres destins de la famille de Santiago, le personnage. C'est un peu ce que Vargas Llosa va éviter. Et c'est pas parce qu'il veut éviter, c'est parce que sa passion, c'est aussi la littérature, hein, c'est déjà au départ.
On va continuer de parler de Mario Vargas Llosa et de ce livre Conversation à la cathédrale, juste après cette chanson interprétée par Maria Isabel Granda y Larco, plus connue sous le nom de Chabuca Granda, illustre chanteuse populaire originaire du Pérou.
Cuando ya se me olvide habré olvidado, viviré adormecida, liberada. No ansiaré la respuesta, pues no habré preguntado, no habré de perdonar ni habré ofendido. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar la adolescencia. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar la adolescencia.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Une longue conversation aujourd'hui dans votre book club. Conversation fleuve, ondulante entre passé et présent, entre deux hommes, plusieurs personnages. C'est la structure de l'un des romans que Mario Vargas Llosa considérait comme le plus important de son œuvre. Le grand écrivain péruvien, né en 1936 et mort en avril 2025, est l'auteur d'une œuvre prolifique au milieu de laquelle trône la fiction qui le passionnait. On l'a dit depuis le début de l'émission, mais il écrivait aussi des articles, des récits, des nouvelles, des essais. En 1969, il achève Conversation à la cathédrale, en exergue duquel il place une citation de Balzac. Il faut avoir fouillé toute la vie sociale pour être un vrai romancier, vu que le roman est l'histoire privée des nations. Le projet de cette vaste fresque est donc planté. Il s'agit pour Vargas Llosa et ses personnages de savoir, dès le début, depuis quand, pourquoi, comment le Pérou, je cite, s'était-il trouvé foutu? On entre dans la conversation à la cathédrale par le début, ici dans la traduction d'Anne-Marie Cazès et Albert Bensoussan. Ambrosio? Il sourit, hésite, sourit. Tu ne serais pas Ambrosio ? L'autre ne part pas en courant, il ne dit rien. Son regard est accablé et stupide. Et soudain, apparaît dans ses yeux une espèce de vertige. « Tu m'as oublié ?» Il hésite, sourit, hésite. « Je suis Santiago, le fils de Don Fermin. » Les grosses paluches se lèvent. « Le petit Santiago, monsieur ?» reste en l'air comme hésitant entre l'étrangler et l'embrasser, le fils de Don Fermin. Il a la voix brisée de surprise ou d'émotion et bat des paupières, aveuglé. Bien sûr, voyons, il ne le reconnaissait pas. Santiago, lui, l'avait reconnu dès qu'il l'avait vu sur le terrain. Qu'est-ce qu'il disait là, ça, alors ? Les paluches s'animent, nom d'un chien, reprennent leur vol. Comme vous avez grandi, bon Dieu, s'abattent sur les épaules et le dos de Santiago et ses yeux rient enfin. Quelle joie, petit ! Incroyable que le petit Santiago boive déjà de la bière. Et Ambrosio rit en découvrant ses fortes dents jaune-vert. Le temps volait, bordel. Il monte l'escalier. Parmi les maisons à grande cour commune de la rue Alfonso Ugarte, il y a un garage fort de blanc. Et à l'entrée de la rue, à gauche, on aperçoit, délavé par la grisaille inexorable, le dépôt des chemins de fer centraux. Un camion chargé de caisses cache la porte de la cathédrale. À l'intérieur, sous le toit de tôle ondulée, s'entasse sur des bancs et à des tables rustiques une bruyante foule vorace. Deux Chinois en bras de chemise surveillent du comptoir les visages cuivrés, les traits anguleux qui mâchent et boivent, et un serranito égaré là, en tablier déchiré, sert des soupes fumantes, des boissons, des plats de riz. Amour, tendresse, caresse, mucho, mucho, mucho. Tonitru une radio multicolore et au fond, derrière la fumée, le bruit, l'épaisse odeur de cuisine et d'alcool et les dansants essaims de mouches, il y a un mur troué. Pierre, cabane, ruisselet, ciel de plomb. Et une femme, corpulente, trempée de sueur, manipule marmites et poils, cernée par le crépitement d'un fourneau. Et voilà qu'on entre à la cathédrale, Stéphane Michaud et Ina Salazar, avec au moins deux, trois personnages, ces deux hommes qui se reconnaissent et vont se rappeler une partie du passé qui les lie, et le troisième personnage qui va être cette cathédrale, qui porte plus ou moins bien son nom, puisque c'est le lieu qui va abriter cette conversation et qui est un lieu, comme on va l'entendre, qui est très pluriel, d'abord très bruyant, mais on l'entend d'abord aussi très pluriel. Alors on y va, on présente ces trois grands personnages et puis peut-être la structure aussi de conversation à la cathédrale, Stéphane Michaud.
C'est assez extraordinaire de penser que Lima, qui est quand même une grande ville dans l'histoire du Pérou et de la colonisation espagnole, est ici présentée par un biais qui est quand même d'une médiocrité, pour ne pas dire d'une tristesse abominable. C'est-à-dire que vous avez légitimement expliqué le terme de cathédrale. On attendrait, après tout, une cathédrale, un lieu, comment dire, un lieu saint.
Grandiose, du moins.
Voilà. On pourrait croire que c'est un lieu prestigieux. Or, c'est un bistrot minable qui est à la porte de la Fourrière. Et les deux personnages que vous avez fait se rencontrer dans cet extrait sont deux personnages qui se retrouvent dans des conditions les plus lamentables possibles. C'est-à-dire qu'Ambrosio est employé à la Fourrière où il a, à une époque où le gouvernement fait croire qu'il y a un danger d'épidémie et qu'il faut absolument conjurer. Donc, la municipalité paye la Fourrière pour rafler les chiens, prétendument les chiens errants, et en fin de compte, Savala, qui est là le deuxième partenaire, celui qui est appelé le petit, est celui qui vient rechercher son chien, exactement le chien de sa femme qui a été enlevé par des gens qui ne sont pas contentés de ramasser des chiens errants, mais pour faire du chiffre, ont aussi tout simplement volé un chien en laisse et s'en sont emparés. Donc, au fond, cette entrée dans
par
la
le bas,
de...
vous diriez. D'une certaine, on entre par le bas, c'est ça, Stéphane?
Absolument, absolument. C'est-à-dire que c'est une radiographie tout à fait extraordinaire du Pérou, mais qui est cette vie privée des nations, puisque c'était ça la citation de Balzac, Vargas Llosa a choisi de l'aborder vraiment par la lie de l'humanité. C'est là un zambo, c'est-à-dire celui qui est ici désigné comme l'employé de la Fourrière et est un personnage usé, qui a été jadis le chauffeur de son père, et Zavalita, le petit Zavala, c'est-à-dire membre d'une famille grande et puissante au Pérou et à Lima, a quelque peine à reconnaître cet employé de la fourrière qui était jadis le chauffeur de son père. Mmh. Et je dirais cette entrée dans la réalité de ce qu'est le Pérou sous le régime du général Odría, est au fond une manière, non pas de célébrer, c'est surtout pas de célébrer la tyrannie et le pouvoir politique fort, celui qui a exclu les communistes, celui qui a chassé les socialistes, mais c'est une manière de rentrer dans la vie telle qu'elle est, avec ses côtés tout à fait sordides, et je dirais c'est un tour de force de la part de Vargas Llosa, parce que le titre lui-même, Conversation à la cathédrale, vous l'avez très bien dit, structure tout le roman, dès le départ est placée la vérité fondamentale, qui est dès les premières lignes, El Perú Jodido.
Pourquoi est-ce qu'il était foutu, ce pays ?
Voilà, pourquoi est-ce que le pays est foutu ? Et ce qui est plus grave, c'est que c'est sans doute la loi du pays. Et ça, c'est la force du roman de Vargas Llosa. Sous la tyrannie, les jeux sont tellement pipés qu'il n'y a plus d'autre solution que d'être trompé ou de tromper.
Alors, on va y venir dans toute la dimension critique et plus politique de ce roman « Conversation à la cathédrale », mais restons un instant sur « Conversation », parce qu'on l'a entendu, j'espère, dans la lecture de l'extrait que j'ai fait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui navigue très fort entre les mots prononcés par ces deux hommes qui ne vont avoir de cesse de se parler. Le titre le dit. Mais aussi le brouhaha dans lequel ils le font, mais peut-être plus intéressant encore, la phrase qui intègre tout le temps, en elle-même, sans jamais s'arrêter, en étant très plastique, voire joueuse, les mots qui sont prononcés, les mots auxquels on pense et les mots qu'on entend, Inés Salazar, qu'est-ce qu'on peut dire de cette langue-là ?
Il y a plusieurs choses à dire. Déjà, au niveau de la structure du roman, c'est un roman qui va entrecroiser des temporalités différentes. Et à partir de ce moment-là, il construit un tissu verbal.
Parce que les deux se rencontrent et ils vont évoquer le temps passé.
Voilà, ils vont évoquer le temps passé. Et donc, on va voir des phrases prononcées à ce moment-là, à la cathédrale, et des phrases qui vont renvoyer au passé de chacun des personnages. Et donc ça, c'est un niveau. D'autres niveaux, c'est que nous aurons aussi plusieurs voix, pas seulement Zavalita ou le personnage de Ambrosio, mais il y aura d'autres personnages qui vont intégrer cette espèce de chœur, en fait, de voix différentes. Et c'est la langue du Pérou, c'est la langue des Pérous aussi, hein, avec ses différentes couches sociales, ses différentes provenances géographiques. Et ça, c'est ce que fait Vargas non seulement dans ce roman, mais dans plusieurs romans. C'est un peu une des aspects peut-être où on voit qu'il a une poétique fictionnelle qui est tout à fait sienne, hein, et qui part de ce réalisme. Mais qui est un réalisme qui a à la fois fait une expérimentation verbale, parce qu'il a, appris beaucoup de choses de Flaubert d'un côté, mais aussi de Faulkner.
C'est-à-dire qu'on pense quand même au Bruit et à la Fureur, d'abord pour l'entrée du roman du Bruit et à la Fureur, où on ne comprend pas complètement qui parle, de quoi on nous parle, quelle est la voix qui nous parle, mais aussi parce que plus ça va et plus on a l'impression que cette cathédrale, en fait, elle devient cathédrale aussi parce que les choses résonnent, parce que le temps devient plus grand, plus vaste que le seul bistrot miteux que vous évoquiez, Stéphane Michaud, et que ça devient, oui, un endroit où il y a des échos, où les choses... Bon, qu'est-ce qu'il a emprunté ? On a parlé de son amour puissant pour Flaubert. Qu'est-ce qu'il emprunte à Faulkner ? Pourquoi est-ce qu'il l'aime tant ? À quel moment est-ce qu'il le lit ? Et qu'est-ce qu'il travaille de sa propre langue qui pourrait devoir à William Faulkner ?
Beaucoup de choses, déjà, pas seulement à
Conversation,
mais aussi dans La Maison Verte, on le voit, c'est flagrant, et lui-même le reconnaît, il n'y a pas de problème là-dessus, et il n'est pas le seul, là, parce que tous les écrivains du Boom sont des
Est-ce que vous pouvez définir les écrivains du Boom ?
García Márquez, par exemple, Carlos Fuentes, et avant eux, Juan Rulfo, c'est-à-dire il y a une tradition dans la modernité romanesque latino-américaine d'aller renouveler le roman, la fiction, à travers justement ces grands auteurs qui ont révolutionné le roman occidental.
Mais même. Qu'est-ce qu'il trouve chez Faulkner précisément qui l'intéresse, Vargas Llosa ?
C'est justement ce travail des voix, des temporalités, et aussi cette idée d'un roman total ou d'un univers qui est autonome, qui fonctionne complètement et qui va rendre compte d'une réalité dans toute sa complexité.
Alors justement, cette réalité dans toute sa complexité, on a dit qu'il terminait le roman en 1969, on a dit qu'il traitait de cette période de 48 à 56 pour la période politique. Est-ce qu'on dit deux mots de cette période politique et de la réalité qu'il voudrait radiographier en citant Balzac en exergue et donc en faisant de ce roman un projet aussi qui a l'idée de dire quelque chose de ce pays ?
Alors c'est vraiment très précis, c'est-à-dire que ces deux personnages qui se rencontrent, c'est pas au moment où Audrey est au pouvoir, c'est après. Et donc là, c'est un retour en arrière à ces 8 années de dictature, et le Chenio, parce que ce sont 8 années de dictature de ce général, qui va venir au Pérou avec un coup d'État par rapport à un gouvernement qui était l'espoir d'un gouvernement démocratique plus juste. Que les gouvernements antérieurs, qui étaient plutôt des gouvernements où on ne faisait que favoriser l'oligarchie et tous ces groupes de domination. Donc il est venu, il a fait un coup d'État par rapport à ce président Bustamante Rivero, qui était un espoir pour les intellectuels, les jeunes. Vargas Llosa, il est très jeune, mais donc il va subir la dictature.
Il a précisément 12 ans quand la dictature commence. Oui. Ouais, voilà.
Et après, il va entrer à l'université, parce qu'on est entré assez tôt, 16-17 ans, donc il était assez jeune. Et il va entrer donc à San Marcos, c'est l'université publique, par rapport à la Católica, qui était l'université privée. Donc c'est un choix. Et qui est une université où, bon, évidemment, il y a les courants les plus progressistes de gauche, le communisme, mais aussi l'APRA. Et donc, c'est un moment très important parce que, avec ses romans, Vargas Llosa, comme sa génération, parce qu'il n'est pas seul, va vouloir démasquer tous ces réseaux de pouvoir qui prédominent au Pérou depuis la colonie, en fait. Et donc, c'est un travail aussi politique et littéraire en même temps.
On va écouter justement, dans la lignée de ce que vous venez de dire, Inés Salazar, un deuxième extrait de la conversation à la cathédrale. Vous perdez beaucoup d'argent en suivant ce critère, dit Don Fermin. Il est absurde de vous contenter de sommes misérables, absurde d'avoir votre capital immobilisé dans une banque. Vous vous obstinez à me faire entrer de force dans le monde des affaires, il sourit. Non, Don Fermin, j'en suis revenu, jamais plus. Mais chaque fois que vous touchez, vous, 20 ou 50 000 soles, il y en a d'autres qui se font le triple, dit Don Fermin. Et ce n'est pas juste, parce que c'est vous qui décidez des choses. D'un autre côté, quand allez-vous vous décider à investir ? Je vous ai fait 4 ou 5 propositions qui en auraient enthousiasmé plus d'un. Lui, il écoutait un sourire poli aux lèvres, mais avec des yeux d'ennui. Le churrasco était sur la table depuis quelques minutes et il n'y avait pas encore touché. Je vous ai déjà expliqué. Il saisit son couteau et sa fourchette, s'attarda à les observer. Quand ce régime tombera, c'est moi qui paierai les pots cassés. Mais c'est une raison de plus pour assurer votre avenir, dit Don Fermin. J'aurai tout le monde sur le rable, à commencer par les hommes du régime, dit-il, en regardant d'un air déprimé la viande, la salade. Comme si en me couvrant de boue, eux allaient rester propres. Il faudrait que je sois idiot pour investir un sou dans ce pays. Vous êtes bien pessimiste aujourd'hui, Don Cayo. Don Fermin écarta le consommé, le garçon lui servit la corvina. On croirait qu'Audria va tomber d'un moment à l'autre. Pas encore, dit-il. Mais il n'y a pas de gouvernements éternels, vous savez. Je n'ai pas d'ambition par ailleurs. Quand ceci sera terminé, j'irai vivre tranquillement à l'extérieur et mourrai en paix.
Bonjour le Book Club. J'ai découvert Conversation à la cathédrale de Mario Vargas Llosa dans la bibliothèque de ma mère. L'inventivité du style, tout comme les thèmes abordés, la corruption, l'échec, le pouvoir, en font un livre absolument incontournable. Conversation à la cathédrale est un roman brutal, dévastateur et pénétrant, mais qui ne laisse néanmoins une trace d'espoir. Peut-on dire que Conversation à la cathédrale dépasse la fonction du miroir pour devenir une critique active de la société péruvienne? Merci pour votre réponse.
Et merci à vous, Inka, pour cette lecture enthousiaste et pour cette question. Très belle question. Est-ce que ça dépasse la fonction miroir? Je viens de lire un extrait de la conversation à la cathédrale où on entend la question de la corruption qui est active, qui là aussi structure les relations économiques, pour devenir une critique active du Pérou au moment probablement où Vargas Llosa publie, et puis probablement une critique aussi du régime politique.
C'est que le roman, pour Mario Vargas Llosa, correspond à une épreuve. Vous avez rappelé il n'y a pas longtemps que, précisément, c'est entre 12 et 20 ans que El Ochenio, les 8 ans de la tyrannie d'Odria, sont intervenus pour, au fond, le priver d'un élément, d'une entrée dans la vie qui avait envie d'être tonique et qui s'est placé sous le signe de la fausseté et précisément d'un pays foutu. C'est-à-dire que d'un pays dans lequel le calcul est là en premier. Et l'extrait que vous venez de lire, c'est-à-dire cet entretien entre Don Caio et Don Fermin, ne doit pas tromper sur l'identité des deux donnes, c'est-à-dire ces deux personnages qui ont une haute responsabilité politique. Don Fermin est au fond représentant d'un petit noyau de gens riches et qui tient l'économie du Pérou et qui est allié au gouvernement précisément pour faire de meilleures affaires. Et Don Caio est celui qui vient d'être choisi, tiré de son exil. C'est aussi quelqu'un qui a été à l'académie militaire, qui a en son temps fait des études et qui a fait ses études avec un personnage qui aujourd'hui est dans le gouvernement qui vient de prendre le pouvoir, qui est ministre de l'Intérieur ou des Armées. Et donc, le colonel Spina est un personnage avec lequel Don Caio a été formé, au point que lorsque le ministre a été nommé par le gouvernement, ou du moins lorsque le ministère s'est formé et que le nouveau chef du pouvoir a voulu former son gouvernement, eh bien, il a pensé à Espina, et Espina s'adresse à un personnage qu'il croit de la même trempe que lui. Et en fin de compte, Don Caio est un personnage redoutable, parce que il prend une allure indifférente, on vient le chercher dans sa lointaine province pour en faire un personnage important au ministère, et il dit « Mais croyez-vous que ça va me dédommager des affaires que je suis en train de faire dans mon petit secteur où je vends des tracteurs et où je fais des affaires plus ou moins honnêtes sur dans ce répertoire ?» Au fond, Don Caio est un personnage qui semble indifférent, n'avoir aucune préférence, c'est même pas la peine qu'on vienne le chercher parce que, au fond, la politique ne le passionne pas, mais au fond, c'est un expert qui cache son jeu de façon épouvantable et qui, précisément par rapport à Don Fermin, qui lui dit « Mais vous qui êtes Don Caio, qui êtes au cœur du pouvoir et qui donc avait toutes les possibilités de vous enrichir et qui m'enrichissait en tout cas, pourquoi vous ne gardez rien ?» Et Don Caio est au fond un personnage redoutable parce que il va s'aviser d'être un homme politique redoutable. Il va organiser une résidence secondaire dans laquelle il organisera au fond une sorte de bordel privé et il y prendra à cet appât les gens au pouvoir, donc il gouvernera et qu'il tiendra en main. Mais ce Don Caio fait semblant d'être indifférent à tout parce qu'au fond, il cache son ambition, il ne va pas tarder à éliminer celui qui l'a appelé au pouvoir et dont il prendra bientôt la place.
Et alors, pour répondre à Ilinka, notre auditrice, est-ce que tout ce que vient de décrire Stéphane Michaud, c'est-à-dire de rentrer dans la complexité des personnages fictifs qu'invente Vargas Llosa, donc pour montrer aussi l'épaisseur, la pénétration de la corruption, du calcul dans la société péruvienne de l'époque, est-ce que c'est simplement un miroir ou pour reprendre cette belle formule de notre auditrice Ilinka, ça devient la production d'une critique active d'un régime politique, et ce serait aussi un autre des programmes de Vargas Llosa?
Oui, je pense que déjà, il mélange très très bien fiction et données historiques. Par exemple, Don Caio, c'est un personnage qui est, disons, pris de la réalité, c'est l'Alejandro Esparza Sañartu, qui était le ministre de l'Intérieur de Odría. Donc, il y a comme ça, des modèles, évidemment, dans ce roman.
Reconnaissable par...
Ah oui, tout à fait reconnaissable. Il y a une volonté de démasquer, de dénoncer, mais d'une manière tout à fait littéraire. Hein. Ce n'est pas du tout
un pamphlet,
loin de là. Mais il y a cette volonté de montrer à quel point le Pérou est foutu, parce que justement, rien ne change. Et que Odría, c'est un gouvernement militaire, mais qui est toujours au service de leur oligarchie. Et Don Fermín est un représentant de ces groupes de pouvoir. Et donc Cayo, et ce ministre de l'Intérieur, mais aussi donc celui qui est évidemment un personnage corrompu, qui va représenter la corruption, mais aussi le cerveau de la répression. Mmh. C'est-à-dire, corruption et répression vont ensemble, et le problème, c'est qu'au Pérou, ça s'est répété plus tard aussi, avec la figure de Montesinos.
On va retrouver la voix du grand romancier Mario Vargas Llosa dans une archive, cette fois de 2019. Il est au micro d'Augustin Trapenard sur France Inter et il parle du point de départ de son écriture.
Le point de départ pour tout ce que j'écris, c'est toujours une expérience vécue qui me donne le point de départ d'une histoire. Hein. Parfois c'est une personne, parfois c'est une situation... une anecdote. Alors je suis encouragé à développer petit à petit, à partir de cet souvenir, n'est-ce pas, d'une expérience vécue, une fiction. Il y a des expériences qui touchent, je crois, un centre névralgique de votre personnalité. Et alors vous assumez, n'est-ce pas, comme une obligation de développer cet souvenir en transformant les souvenirs dans une histoire. À partir de là, je crois que c'est le travail surtout. Il faut refaire, réécrire, il faut essayer d'atteindre la perfection qui n'attend, on l'attend jamais, n'est-ce pas? Mais chercher cette perfection, c'est la leçon de Flaubert, je crois, n'est-ce pas? C'est essayer de trouver le mot juste, l'expression parfaite. Mais en même temps, c'est très mystérieux. Vous ne savez jamais ce que vous êtes en train de faire, hein, et la répercussion que ça peut avoir dans les lecteurs de l'avenir, non?
Et on est en 2019, Mario Vargas Llosa est au micro d'Augustin Trapenard. C'était très beau l'idée que un fait biographique touche un point névralgique en soi et qu'il y a une forme de responsabilité à transformer cette expérience en écriture et en fiction. Ina Salazar, on a parlé donc de toutes les ficelles, on pourrait dire les souterrains autobiographiques qu'il y a dans Conversation à la cathédrale. On a assez peu parlé des relations amoureuses, des relations à la sexualité, de la manière dont les femmes traversent ce roman en permanence, de manière très multiple là aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amour, il y a du désir, il y a de la brutalité, il y a de la prostitution. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet aspect-là ?
C'est difficile à définir comment se présentent les femmes dans ce roman, parce que il y aura d'autres romans où peut-être les femmes vont être plus en premier plan.
Là, mais moi je les trouve très présentes là quand même.
Elles sont présentes, mais toujours
peut-être
un
qu'elles
peu,
passent oui. plus. Elles passent.
Et elles sont pas. Elles sont soumises à certains schémas, je dois dire, où c'est la prostituée, où c'est l'employée domestique, où c'est la femme, où c'est la mère. Donc, bon, il y a plusieurs fils. Alors, de l'amour, oui, il y a de l'amour, mais c'est un amour qui est tellement...
Il y a beaucoup d'amertume, beaucoup de regrets.
Subordonné en relation de pouvoir, justement, qui est difficile à sentir comme heureux. En tout cas, voilà.
Mais ce qui est intéressant, c'est que puisqu'on parle de l'idée de rendre quelque chose du pays à ce moment-là, peut-être qu'en rentrant aussi du côté des relations intimes, des relations amoureuses, et en montrant qu'elles sont elles-mêmes travaillées, dégueulassées par des rapports de domination, par des rapports d'argent, il fait la radiographie dont on parlait au début quand il met Balzac en exergue du roman.
Très bien, oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais simplement, c'est, il y aurait pu avoir d'autres, peut-être, personnages féminins qui sortaient.
C'est un autre type.
Oui, voilà, c'est ça.
Y compris.
Et qu'il va essayer de développer après. Hein. C'est vrai que là, c'est tellement masculin, tout. Enfin, l'univers est tellement dominé par l'homme, quoi. C'est.
Sur la voix de Marga Sosa, Stéphane Michaud, qui dit « Quelque chose dans la vie fait vibrer un point névralgique en soi et nous voilà responsables, nous avons la nécessité de le porter dans la littérature ». Qu'est-ce qu'on peut dire, peut-être, de l'écriture de Marga Sosa dans le sens où on écho avec ce qu'il vient de dire pour Conversation à la cathédrale et puis plus généralement pour son œuvre littéraire ?
Écoutez, je crois que... On doit à Vargas Llosa que le mot littérature devient tout à coup une sorte de volcan de toutes les possibilités. C'est-à-dire que pour nous, j'ai un peu peur que l'habitude que nous avons en France, c'est de dessiner une trajectoire qui est peut-être un peu trop bordée et un peu trop sage. Pour lui, c'est le début de la vie et avec cette vie qui déborde de tous les côtés. Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui méritent d'être là évoqués. Ina Salazar avait parfaitement raison de rappeler que le roman qui va suivre va aussi être tourné autour du Pérou. La tia Julia y el escribidor, la tante Julia et le scribouillard, c'est au fond l'histoire, alors véritablement amoureuse, du jeune Mario Vargas Llosa, qui n'est encore qu'étudiant, n'a pas un sou pour vivre, mais tombe déjà amoureux, et tombe amoureux de qui ? D'une tante qui débarque de Bolivie et qui vient vivre son divorce, puisque l'oncle en question l'a quitté. Et voici que ce jeune homme se prend d'amour pour cette femme et va jusqu'au bout. C'est-à-dire que, malgré l'hostilité de la famille, il se marie, alors du coup, il y a un scénario qui est tout à fait extraordinaire et extravagant, parce qu'il court les curés et les mairies pour essayer de trouver quelqu'un qui va le marier. Mais donc, l'histoire amoureuse, là, je dirais, aura là toute sa place, et il faudrait aller voir comment est-ce que les femmes peuvent aussi être, je dirais, à l'origine d'une réflexion politique, et ce serait cette fois-ci le paradis un peu plus loin, c'est-à-dire l'histoire que Vargas Llosa, sortant pour la première fois de son Pérou natal, écrit l'histoire de Flora Tristan et de son petit-fils Gauguin. Et donc il y a là toute une dimension. Mais je voudrais ajouter un élément important, c'est que vous nous demandiez si ce roman était aussi une prise de position. Je crois que c'est très important de voir l'évolution de Vargas Llosa, qui précisément met en scène dans ce roman un événement qui est un événement de sa vie propre. Comment est-ce que lui-même a été, au temps où il était étudiant à San Marcos, rencontrer le Don Cayo du roman, c'est-à-dire le bras droit, l'éminence grise du pouvoir, et qui se confond dans la grisaille, et demander que ses camarades qui ont été arrêtés pour une grève étudiante
leur peine soit aménagée ou en tout cas
voilà. Donc on comprend, je dirais, que il y a une écriture engagée de la part de Vargas Llosa, et après tout, lorsque Vargas Llosa est à Paris, c'est dans les années qui précèdent, c'est plutôt l'époque où il écrit La ville et les chiens, il est délégué il trouve un petit travail alimentaire comme professeur d'espagnol, un travail alimentaire aussi, il est employé à la radio d'État, à la RTF, et délégué à un moment, au moment de la crise de Cuba, lorsque les Américains et le président Kennedy obligent Cuba à renvoyer, et obligent en vérité Moscou, à écarter, à remballer les fusées à tête nucléaire qui étaient orientées vers les États-Unis. Et donc, Vargas Llosa va à Cuba et il fait un reportage et il revient en signant dans Le Monde un article en faveur de Cuba. Et donc, je dirais, cet engagement du jeune Mario Vargas Llosa, qui est au fond très proche des communistes, dont il se défera plus tard, mais je dirais une écriture engagée de Vargas Llosa qui ne cessera pas de toute sa vie. Il l'aura
En bougeant politiquement néanmoins.
Pardon ?
En bougeant un peu politiquement néanmoins, si j'ai bien compris.
Absolument, pas un peu, mais en bougeant très fortement, très très fortement. Mais je dirais, c'est un élément de son écriture qu'il faut savoir juger, parce qu'à la fois, ça ne confond pas, ça ne dit pas toute son écriture, et en même temps c'est une composante importante.
Oui, c'est-à-dire ça revient à ce que vous disiez au tout départ, tous les deux, Stéphane Michaud, en reprenant les mots de Vargas Llosa lui-même, c'est-à-dire la littérature c'est la vie. Donc ça embrasse tous ces gestes-là d'un engagement qui est politique, qui bouge sur l'échiquier politique, mais qui continue à faire vibrer sa littérature, sans la résumer.
Oui. Écoutez, moi, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que la littérature, dès le départ, a été effectivement toute sa vie. Au début de son mariage, il demande à sa femme de lui glisser son plateau repas devant la porte et de le laisser travailler. Au fond, mais le mot littérature, réellement, donne toute une dimension nouvelle à sa propre vie et à tous ses lecteurs.
Et le book club continue.
France Culture, le book club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, comme chaque semaine pour cette semaine, on vous retrouve. Mohamed Bougarsar, vous avez cette mission de sortir des livres de votre bibliothèque en fonction d'un fait d'actualité que vous choisissez. Bonjour Mohamed.
Bonjour Marie.
Quel est le fait d'actualité qui vous a permis de sortir un livre de votre bibliothèque cette semaine?
Tout d'abord, je voudrais commencer cette chronique en disant je vous salue Marie. Puisqu'on commence, on va faire cette chronique autour du pape Léon XIV. Le 8 mai dernier, lorsqu'il se présentait très ému au balcon de la basilique Saint-Pierre comme nouveau pape de l'Église catholique, je pensais, et lui aussi peut-être, et vous aussi peut-être, à Saint-Augustin, l'auteur au IVe siècle, après Jésus-Christ, des Confessions.
Et on sait que Saint-Augustin, évêque d'Hippone à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ, et un des pères fondateurs de l'Église chrétienne, est la figure tutélaire sur le plan théologique de ce fameux Léon XIV. Ce dernier fut même supérieur général de l'ordre de Saint-Augustin.
En effet, et Léon XIV l'a dit, il est augustinien. Et à la lecture des Confessions, je serais tenté de l'être aussi, non pour des raisons doctrinales ni même religieuses, mais pour la puissance d'élucidation que l'Écriture y prend. La recherche de la vérité qui entreprend Saint-Augustin s'accommode mal de la complaisance, de la vanité et du mensonge. Il s'agit non point de se juger, mais de se livrer nu à Dieu, qui seul en a la prérogative. « Je ne dispute pas en jugement avec toi, qui est vérité, dit Saint-Augustin, de peur que mon iniquité ne se mente à elle-même. » Voici donc un texte qui tient de l'examen de conscience et de l'introspection, des mémoires et du journal existentiel, de l'aventure spirituelle et de l'itinéraire intellectuel, sans oublier, bien entendu, le traité apologétique et la quête religieuse. Saint-Augustin, qui dit détester les lettres à l'enfance, trouvant Homère, je cite, « délicieusement creux », invoque Dieu, raconte comment il le cherche, le loue, le tutoie. Louis de Modandon, le traducteur de cette version dans la collection Point Poche, fait ce choix de prénom, le tu, qui change absolument tout. Saint Augustin avoue ses fautes et ses errances. On apprendra ainsi qu'il fut un jeune homme pécamineux, fripon et lubrique, se vautrant dans la boue de Babylone comme en des nards et des onguents précieux, écrit-il. On apprend qu'il fut un fugace voleur de poires et on relit avec plaisir les pages pré-romantiques du jeune homme qui aimait aimer. Le désir de transcendance le pousse à voyager, on l'envoie à Carthage pour se frotter aux philosophes, à Aristote notamment, mais aussi aux doctrines de son temps. Le manichéisme, par exemple, est rhabillé pour quelques millénaires dont il qualifie les sophismes élégants de filandreux contes en l'air. Augustin cherche, espère un signe, mais surtout marque suprême de l'intelligence et du cœur, et c'est peut-être ça, être augustinien, il doute, chose de moins en moins fréquente aujourd'hui. Qui veut encore douter, Marie?
Moi, je veux douter, je fais ça en permanence, Mohamed. Vous n'allez pas nous laisser avec cette question tout à fait augustinienne. En plein doute, il voyage, il cherche, il questionne jusqu'à ce qu'il rencontre et qu'une rencontre se produise et qui sera décisive.
En effet, Saint-Augustin va à Milan et c'est là qu'il fait la connaissance d'un autre père de l'Église, Saint-Ambroise, dont l'humble sagesse l'éblouit. De là date, je crois, le début réel de sa conversion. Car il me semble que les Confessions constituent le récit autobiographique, peut-être le premier du genre, d'une conversion, c'est-à-dire d'une conversation profonde entre un homme et son temps, entre un homme et son aspiration, entre le monde matériel où le mal peut régner et l'expérience intérieure qui permet de lui opposer toujours l'amour, dont la vérité se révèle dans la méditation, le silence et la lecture. L'un de mes épisodes préférés à ce sujet intervient au livre 6. Saint Augustin décrit la manière que Saint Ambroise avait de lire. Il écrit « Ses yeux, quand il lisait, suivaient les pages et son cœur fouillait la pensée, mais sa voix et sa langue reposaient. Nous le vîmes toujours lire en silence, jamais autrement. » Cela peut sembler banal aujourd'hui, la lecture silencieuse étant largement répandue, mais Augustin, au IVe siècle après Jésus-Christ, s'étonne de cette pratique, ce qui fera dire à certains savants que cette scène date de l'invention ou la découverte de la lecture intérieure. La thèse a été remise en cause, mais je la trouve belle, non seulement pour ce qu'elle décrit, mais aussi pour la leçon qu'Augustin en tire. Et je suis certain que vous le savez, et vous le défendez aussi, Marie, il ne faut jamais déranger quelqu'un qui lit. Je passe très rapidement sur les vertigineuses méditations méditations que saint Augustin effectue sur la définition du temps, sur la mémoire et ses tours, sur son envie de se dire non pas tel qu'il fut, mais tel qu'il est. C'est le présent de son cœur qui l'intéresse et non, comme on pourrait le croire, le passé. Je passe aussi sur les derniers chapitres du texte qui sont des commentaires des premiers mots de la Genèse où saint Augustin devient métaphysicien et se demande par exemple ce que faisait le Dieu de la Bible avant de parler pour la première fois, et je suis sûr que vous vous le demandez aussi.
Ouais.
Vertigineux. Je reviens à Léon XIV. Son émotion le 8 mai dernier était aussi celle d'un homme mesurant la difficulté de la charge qui l'attendait. Devant toutes les guerres de fin du monde, je fais ici un petit clin d'œil à l'auteur dont on a parlé aujourd'hui, Mario Vargas Llosa, et je ne savais absolument pas qu'on parlerait de Vargas Llosa aujourd'hui.
Devant c'est le signe qu'attendait Saint-Augustin, Mohamed.
Exactement. Donc, devant toutes les guerres de fin du monde, la question est simple et elle est extrêmement difficile. Que peut un pape ?
Oui, parce qu'on rappelle que Léon XIV est états-unien, mais qu'il possède aussi la nationalité péruvienne, puisqu'il a longtemps exercé sa charge en Amérique latine. Que peut un pape, donc ?
Peu de choses, sans doute, mais ceci au moins, prier pour la paix. Ce furent presque les premiers mots de Léon XIV, que la paix soit sur vous. Ce furent presque les derniers mots des confessions de saint Augustin, donne-nous la paix du repos, la paix sans soir.
Et on aurait presque envie de dire un amen athée, laïque, pour
puisqu'on
moi.
Puisqu'on a commencé par Je vous salue Marie, il faut terminer par amen.
Exactement, amen. Merci beaucoup Mohamed Bougarsar. On peut donc lire les confessions de saint Augustin. Moi, je les ai lues et tellement appréciées dans cette version qui s'appelle Les Aveux, traduit par Frédéric Boyer. C'est une merveille. Merci beaucoup Mohamed Bougarsar.
Merci.
Lecture d'actualité à réécouter sur franceculture.fr. Et le book club continue à cette heure-ci. Nous cherchons de la musique dans les livres. Et moi, je cherche ma page musicale. Donc, si je la trouve pas, cette séquence va probablement partir à la poubelle. Non, ça y est, je l'ai trouvée. C'est un extrait de Conversation à la cathédrale. Amalia posa le plateau avec les verres et les coca devant la photo de Speedy et resta debout près de la commode, l'air intriguée. Elle portait la robe blanche et les souliers plats de son uniforme, mais pas le tablier ni la coiffe. Pourquoi restait-elle debout comme ça ? Viens, assieds-toi. Il y avait de la place ? Comment elle allait oser s'asseoir ? Et elle eut un petit rire. Madame aimait pas qu'elle entre dans la chambre des enfants, elle le savait pas. Fais pas la sotte, ma mère n'est pas là, la voix de Santiago se tendit soudain. Ni lui ni Popeye n'allaient l'accuser. Assieds-toi, petite sotte. Amalia se remit à rire. Il disait ça maintenant, mais à la première occasion qu'il se fâcherait. Il l'accuserait, et madame la gronderait. « Parole d'honneur que Kiki t'accusera pas, » dit Popeye. « Te fais pas prier, assieds-toi. » Amalia regarda Santiago, regarda Popeye, s'assit sur un coin du lit et maintenant, elle avait l'air sérieux. Santiago se leva, se dirigea vers le plateau. « N'aie pas la main lourde, Popeye. » Et il regarda Amalia. Elle aimait comme il chante cela. Il montra la radio, super, non ? Elle aimait, il chantait bien. Elle avait les mains sur les genoux, se tenait très droite, les yeux mi-clos comme pour mieux écouter. C'était Los Trobadores del Norte, Amalia. Merci beaucoup Stéphane Michaud d'avoir été avec nous pour évoquer Conversation à la cathédrale et de manière générale, Mario Vargas Llosa mettra sur le site internet toute la documentation qui permettra à nos auditrices et auditeurs d'aller un petit peu plus loin dans ses lectures et dans ses réflexions. Merci beaucoup Ina Salazar d'avoir été avec nous pour évoquer son œuvre Conversation à la cathédrale. Au son, Paul Delmas à la pas du tout, Jérémy Kaufmann. À la réalisation, Cassandre Puel. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser et préparer ces émissions chaque jour. Et en particulier aujourd'hui, à Lou Quevauville.